Frères et sœurs, les amis, nous n'allons pas nous arrêter pour cette fête de l'Épiphanie, dont nous savons très bien que le mot veut dire manifestation, sur la personnalité de ces mages, puisqu'ils tournent beaucoup de légendes autour. Nous ne savons même pas s'ils étaient véritablement trois, nous n'en connaissions pas la couleur de la peau. Bref, beaucoup de choses et de légendes sont nées autour de ces personnes, donc ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de en rester au texte de l'Évangile qui nous est proposé et auquel, si vous le voulez bien, nous allons nous attacher et non pas à ce que la légende en a fait de cette fête des rois mages. Bon, je n'ai rien contre les galettes des rois, bien au contraire, je suis le premier à en manger, mais là aussi, on peut voir tout le poids de ces légendes qui tournent autour de ces mages. Par contre, ce que nous savons, c'est que, au travers du livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17, la prophétie de Balaam, qui était la suivante, « Je le vois, je l'observe, de Jacob monte une étoile, d'Israël jaillit un sceptre. » Donc, que ces astrologues, ces mages en question, connaissant d'une part les textes, étaient attentifs à l'apparition d'un nouvel astre, il n'y a là rien que de normal. Et puis, bien évidemment, la personnalité d'Hérode, nous la connaissons bien, cet homme parfaitement féroce, reconnu comme roi par le pouvoir romain, qui a fait massacrer ses propres enfants, une grande partie de sa famille, donc un fou, on pourrait dire. Bien évidemment, la naissance de cet enfant, il apprend, le met hors de lui et en fureur, et va donc se renseigner pour savoir le lieu, etc. Alors, ce qui peut être intéressant pour les historiens, c'est que nous connaissons parfaitement la date de la mort d'Hérode le Grand, c'est 4 avant Jésus-Christ, et qu'il a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans, c'est-à-dire des enfants nés entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est vraisemblablement né entre 6 et 5 exactement. Ce n'est qu'au 6e siècle, vous le savez, lorsqu'on voulut, et à juste titre, compter les années à partir de la naissance du Christ, qu'il y eut tout simplement une erreur de comptage. Bon, à la limite, peu importe, mais ça peut intéresser les historiens que vous pouvez être les uns et les autres. « Toi, Bethléem, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira le Messie. Toi, Bethléem, tu n'es pas le plus petit des clans de Juda, car de toi est sorti le roi d'Israël. » On voit que Matthieu convertit la parole de Michée pour, en fait, auréoler, si l'on peut dire, Bethléem par rapport à Jérusalem, d'une lumière tout à fait nouvelle. Alors, Bethléem, c'est un peu le monde à l'envers, car l'étrange de ce texte, c'est que le roi des Juifs n'est pas celui qu'on pense. Il y a un roi régnant, certes, à Jérusalem, mais ce n'est pas devant lui que ces astrologues, ces mages, vont aller se prosterner. Et puis, nous assistons à un face-à-face qui est souvent présent dans l'Écriture, une espèce de confrontation. D'un côté, les mages, ces astrologues, qui sont des païens, et de l'autre, toutes ces autorités religieuses du peuple juif, ceux qui connaissent les affaires de Dieu, qui connaissent les promesses de Dieu, et qui peuvent citer sans se tromper les prophéties, eh bien ce sont les païens qui sauront les premiers reconnaître la venue du Messie, et qui sauront se mettre en route vers lui. Et Matthieu insiste dans son texte, c'est au peuple juif que la promesse du Messie avait été faite, et tous les prophètes les y avaient préparés. Mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. On peut ici retrouver ce que nous avons dans le prologue de Saint Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors une fois de plus, nous sommes confrontés à cette apparente contradiction ou ce sont ceux qui prétendent connaître la foi, qui prétendent connaître les prophéties, qui prétendent connaître les Écritures, qui prétendent connaître tout sur tout, qui en définitive ne vont absolument pas reconnaître le Messie qui vient, et ceux qui sont humblement astrologues tout simplement, ce que nous appelons entre guillemets les païens, eh bien c'est ceux-là qui vont aller reconnaître d'une part cet enfant qui correspond à l'astre et qui est apparu dans le ciel, mais que ces païens vont se mettre à genoux et adorer cet enfant hein, au travers des différents présents que ces mages, que ces astrologues vont apporter au pied du Christ dans la mangeoire où il repose. L'or, l'encens, la myrrhe, en définitive, tout cela nous dit que ces mages reconnaissent, peut-être en ne l'exprimant pas avec les mots qui sont les nôtres aujourd'hui, mais reconnaissent que cet enfant est véritablement un roi, que l'on brûlait de l'encens, des parfums, et donc que cet enfant est reconnu comme tel par les païens. Alors c'est une très grande leçon pour moi, pour nous, et que je partage avec vous, c'est que notre foi ici est mise en interpellation, si je puis dire. Quelle est notre foi à l'égard de cet enfant Jésus de la crèche? Est-ce que nous le reconnaissons véritablement comme roi? Est-ce que les doutes qui peuvent habiter notre cœur, notre esprit, s'apaisent en étant devant le mystère de l'adoration de celui qui n'a pas été reconnu par les siens, comme nous le rappelle Saint Jean, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, ouvrons notre cœur à l'accueil au travers de ces mages, de cette épiphanie que nous fêtons aujourd'hui, accueillons l'enfant roi de la crèche, accueillons ce Messie, cet envoyé, et reconnaissons-le comme tel. Amen.